ça a répondu à une demande très forte dans les années 70 des femmes qui se sont mises à travailler. C'est à partir de ce moment-là que les générations de femmes ont eu accès à l'activité salariale en masse.
Les premiers transports par bateau de viande surgelée ou en tout cas en froid négatif, ça date de la fin du 19e siècle.
Pour construire en fait complètement l'offre de produits Picard, déjà nous, on va regarder les tendances de consommation, les tendances dans l'alimentation, puisque les choses évoluent, les gens bougent. Avec le Covid, il y a eu pas mal de mouvements, hein, les gens ont beaucoup plus cuisiné.
Parce qu'il y a eu des premiers incidents, on s'est beaucoup, beaucoup méfié de tout ce qui était surgelé à chaque fois qu'il y avait une crise.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Depuis les années 70, nos foyers sont massivement équipés de congélateurs qui nous permettent de stocker des produits surgelés. C'est la domestication du froid, un phénomène qui marque un avant-après dans nos manières de consommer. Essor du travail des femmes, gain de temps, les surgelés sont alors synonymes de modernité, de progrès, d'émancipation, à une époque où faire à manger relevait plus de la tâche domestique que de l'activité potentiellement créative et épanouissante. Mais après des décennies de crise écologique, les choses ont un peu changé et on veut désormais du frais, du local, on veut croquer les paysages à pleines dents et on se rassure vaguement de la présence de visages d'agriculteurs imprimés sur nos paquets de farine achetés en grande surface. C'est ce qu'en sociologie de la consommation, on appelle la naturalité marchande. Et dans ce monde écartelé entre praticité dans la vie quotidienne, créativité en cuisine et désir de naturalité, une enseigne parvient particulièrement à convaincre les consommateurs et consommatrices. Il s'agit de Picard, qui se hisse régulièrement au rang d'enseigne préférée des Français et Françaises. Comment l'enseigne Picard est-elle un cas d'école pour comprendre le fonctionnement de l'industrie agroalimentaire ? Quels sont les défis auxquels les entreprises alimentaires font face à l'heure où les scandales sanitaires se multiplient ? À quoi ressemblent les techniques marketing et les efforts en innovation pour continuer à attirer en magasin ? Cette série parle de surgelés, d'industrie agroalimentaire et de consommation, à travers le cas pratique de Picard, particulièrement éclairant pour comprendre ces questions. Et faut-il le préciser, ce travail journalistique a été fait en toute indépendance, nous n'avons donc rien perçu de Picard. C'est parti. En 2021, Picard est élu enseigne préférée des Français et des Françaises, selon un sondage. Prix accessible, diversité de l'offre, promotion régulière, nouveautés, la marque de produits surgelés a su se faire une place de choix dans le quotidien de nombreux foyers. Camille Harel.
Je suis chef de rubrique dans le service alimentaire de LSA et je suis notamment en charge du rayon du grand froid, donc du surgelé.
Selon Camille Harel, l'entreprise Picard Surgelé, créée en 1973, a particulièrement profité de l'effet pandémie, avec ses confinements, la généralisation du télétravail et la fermeture des restaurants.
Lors de la pandémie, c'est vrai que les consommateurs ont très vite perçu le côté pratique des produits surgelés, voilà, le télétravail, le nombre de repas qui a été pris en famille au quotidien. Donc c'est vrai que les surgelés étaient un petit peu l'allié des consommateurs pendant cette période-là.
Au début de la crise du Covid-19, les magasins Picard ont en effet été pris d'assaut jusqu'à rupture de stock. Sur cette période, les ventes ont bondi de 15%. Mais le succès de Picard n'a pas attendu la pandémie. Cette entreprise a toujours été florissante. Au 19e siècle déjà, l'ancêtre de Picard, qui s'appelait alors les glacières de Fontainebleau, était une fabrique de pains de glace. Les pains de glace, ce sont ces gros blocs de glace que l'on utilisait avant l'invention du froid artificiel. À l'époque où on devait encore acheminer de la glace depuis les Alpes, pour conserver les aliments dans des glacières, ces grandes pièces dans lesquelles on maintenait le froid. Quelques rachats plus tard, les glacières de Fontainebleau sont devenues Picard, qui a d'abord vendu ses produits par correspondance, un mode qui était très apprécié des foyers cherchant à constituer un stock alimentaire, en particulier lorsqu'ils se situaient loin des commerces. Puis arrive finalement le premier magasin physique. En 1974, Picard ouvre ce qui sera le premier magasin spécialisé dans la vente de produits surgelés, rue de Rome à Paris. Aujourd'hui, le maillage territorial s'est renforcé. Avec plus de 1000 magasins aux quatre coins de la France, Picard a tissé sa toile jusqu'à faire solidement partie du paysage agroalimentaire français. Camille Harel explique que Picard est leader sur le segment du surgelé.
Sur les distributeurs spécialisés, en effet, il y a Thirier, il y a un autre distributeur qui s'appelle Ecomiam, qui œuvre plutôt sur la partie ouest de la France. Et puis après, voilà, ça va plutôt être des acteurs de la livraison à domicile. Il y a de la concurrence, il y a plusieurs enseignes, mais voilà, Picard, c'est le leader incontesté du surgelé en France avec un nombre de magasins bien plus important que ses concurrents.
Picard est donc aujourd'hui chef de file du secteur du surgelé en France. Au-delà de ce succès économique évident, et avant d'aborder dans le troisième épisode à quel prix ce succès économique est atteint, j'ai eu envie d'en savoir plus sur Picard et sur ce qui fait sa popularité. Car une chose me surprend à propos de cette enseigne, elle attire une typologie de clients très variée. Près de chez moi, à Paris, il y a un lycée et dans une rue pas loin, un Picard. Et depuis que ce dernier a ouvert un corner avec un micro-ondes où réchauffer ses plats et des chaises hautes qui permettent de se restaurer sur place, je vois toujours des élèves s'y poser le midi. Et je me souviens alors moi aussi de mes années lycée, quand on faisait tout pour fuir les plats insipides de la cafette et qu'on avait donc 2-3 euros max à consacrer à notre déjeuner à prendre à l'extérieur. On allait alors se commander un pizzwich, une espèce d'affreux roulé à la tomate qui imitait un effet pizza. Parfois, c'était la formule étudiant au kebab du coin, ou le sandwich triangle Sodebo du Carrefour Market. Je crois bien que les barquettes express à 2-3 euros de chez Picard remplissent une fonction similaire pour les jeunes de ma rue. Mais ils et elles ne sont pas les seuls à s'engouffrer dans ce magasin entre midi et 2. Je vois aussi les CSP+ du quartier, que j'imagine au régime quand ils achètent leur bol de légumes, ou pressés quand ils ressortent eux aussi avec une barquette express. À 17h, je vois également les mères de famille qui viennent chercher des lasagnes XXL, les célibataires qui achètent des poêlés préparés, les gourmets qui passent à la caisse avec des pavés de poisson qu'ils vont sûrement cuisiner chez eux avec des légumes frais, ou encore les gourmands juste venus compléter leur menu du soir avec une petite douceur sucrée. À l'approche de Noël, certaines personnes esselées ou éloignées de leur entourage partagent sur Twitter les plats de fête qu'elles s'achètent chez Picard, pour avoir accès à un ersatz de cuisine familiale sans devoir allumer le four des heures durant juste pour une seule personne. Et sur TikTok, des influenceuses états-uniennes et britanniques font régulièrement des vidéos de plats Picard qui leur donnent l'impression de croquer à pleines dents dans ce qui serait le goût de la France. Cette diversité de clients, Picard la doit à la versatilité de son offre, faite de plats préparés, mais aussi de produits bruts, pensés pour celles et ceux qui aiment cuisiner eux-mêmes, mais cherchent à se simplifier la vie, par exemple avec des herbes aromatiques déjà ciselées ou des poivrons déjà émincés. Camille Harel.
Cette enseigne, en fait, elle arrive aujourd'hui à toucher toutes les franges de la population, que ce soit en effet le jeune étudiant qui a peut-être un budget un peu plus serré. Picard met en place des menus voilà, avec plats, boissons, desserts avec différents tarifs. Donc du coup, c'est accessible. En tout cas, c'est un menu complet pour un étudiant ou pour quelqu'un qui souhaite déjeuner. En même temps, bah voilà, il y a également toute une offre beaucoup plus premium. Et il y a surtout, ce qui est très intéressant, c'est toute cette offre de produits bruts où on va acheter un poisson pas du tout cuisiné, une viande pas du tout cuisinée, des légumes pareil bruts, et après c'est au consommateur de faire sa cuisine d'assemblage avec du coup des produits surgelés. Il a été acheté, et ça lui permet aussi de pouvoir utiliser uniquement la quantité dont il a besoin. Ça permet également de lutter contre le gaspillage alimentaire, etc. Donc c'est vrai que ça touche vraiment tous les consommateurs. Après il y a aussi des familles qui vont prendre des plats cuisinés, etc. Mais voilà, le spectre, on va dire, est très large.
Pascale Hébel est experte en consommation et vous l'avez déjà entendu dans l'épisode précédent sur l'essor du surgelé. Selon elle, Picard a su comprendre au bon moment qu'après avoir apprécié la praticité des plats préparés dans les années 70, les ménages finiraient par se tourner de nouveau vers le plaisir de cuisiner maison.
Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui une des marques préférées des Français ? C'est bien parce qu'ils ont toujours gardé la même ligne qui est de proposer des produits bruts, de bonne qualité, avec une offre un peu de produits de plat tout prêt, mais surtout de quoi cuisiner au moment où la cuisine est revenue. Dans les années 70, c'était quand même très vécu par les femmes qui ont voulu se libérer des corvées. La cuisine, on l'a abandonnée. Et Picard a connu un succès important au moment où on a voulu refaire un peu de cuisine. Alors, c'est un peu, parce qu'on en fait quand même beaucoup moins que dans les années 70. On veut faire chez soi. Donc, il y a une conjonction de fait, en fait. Hein. C'est une crise économique de 2008 où on a moins d'argent et on se dit, au lieu d'aller dans les restaurants, je vais faire à manger, donc je veux faire des choses faciles. Une génération jeune qui est libérée de cette contrainte des corvées et qui choisit de faire à manger parce que c'est aussi un plaisir et c'est aussi un loisir. Les hommes se mettent à faire la cuisine. Et bah, finalement, il y a cette enseigne qui est là au milieu de la ville qui propose, finalement, ça prend pas trop de temps d'aller dans le magasin, et qui propose des ingrédients qui sont faciles à utiliser pour se faire à manger chez soi et en faisant des recettes. Et puis, en créant une offre sur tous les moments, les nouvelles occasions de consommation qui se développent. L'apéritif dînatoire, le fait de proposer des choses rapides et qui sont bonnes, et un engouement. Alors là, c'est des phénomènes qui sont un peu moins maîtrisés par le marketing et qui fait qu'il y a du bouche à oreille où tout le monde sait que pour organiser un apéritif, il suffit de choisir les canapés de chez Picard.
Mais ce qui permet également à Picard d'attirer autant sa clientèle, c'est le turnover de ses produits. Galette des Rois, Fête des Mères, Saint-Valentin, Noël, Chandeleur. L'enseigne profite de chaque événement de l'année pour sortir une nouvelle gamme de produits. C'est ce qu'on pourrait appeler l'événementialisation de l'offre, une manière de créer du rythme dans la mise en marché de ces produits. Et on retrouve cette logique partout ailleurs dans le commerce. Le Beaujolais nouveau pour les cavistes, le mois du blanc pour les vendeurs de linge de table, la Saint-Valentin et la Fête des Mères pour les fleuristes, tous ces phénomènes sont des marronniers, autrement dit des temps forts qui font office de rendez-vous avec la clientèle. Aveline, alias Hunter Gourmet sur les réseaux sociaux, est une influenceuse food qui n'est pas insensible à cette logique de nouveauté chez Picard. Sur Internet, elle partage parfois des crash tests Picard, des vidéos dans lesquelles elle goûte des produits Picard et donne son avis.
Franchement, à chaque fois quand il y a des nouveautés, je suis en mode « Oh my god, il y a des nouveautés Picard !» Et à chaque fois, c'est des produits d'appel, par exemple, quand c'était les produits style américain. On voyait l'affiche avec le gros gâteau multicolore et je me suis dit « Mais il faut trop que je le teste !»
Pour sans cesse créer des produits pensés pour plaire, Picard se donne les moyens de capter l'air du temps. Pour en savoir plus sur le processus de création des produits Picard, je me suis entretenue avec Delphine Alazard-Courtier.
Je suis la directrice marketing, recherche et développement et achat de Picard Surgelé et je suis en charge de l'offre des produits depuis 26 ans chez Picard.
Il faut savoir que Picard ne fabrique pas lui-même les produits que l'on trouve dans son catalogue. Les produits sont imaginés en interne, mais fabriqués par des sous-traitants qui vont recevoir un brief et élaborer ensuite la marchandise. Vous le verrez, le travail sur les tendances alimentaires de Picard fait penser à la mode et à l'industrie du prêt-à-porter. Car c'est bien sur la saisonnalité des collections que l'industrie du vêtement calque son marketing et son commerce, fait d'avant-premières, d'exclus, de soldes et de promos. Car si une nouveauté en chasse une autre, la logique est de toujours chercher à être à la page en découvrant le dernier truc en date.
Pour construire en fait complètement l'offre de produits Picard, déjà nous, on va regarder les tendances. Les tendances déjà de consommation, les tendances dans l'alimentation, puisque les choses évoluent, les gens bougent. Avec le Covid, il y a eu pas mal de mouvements, hein. Les gens ont beaucoup plus cuisiné, les gens aussi ont bougé. Je pense qu'ils ont vu aussi tous les bienfaits de la gastronomie française et de tous les ingrédients français qu'on avait. Je pense que aussi on est tous un petit peu revenus dans nos régions et on a vu les recettes qu'on aimait bien faire, les recettes de nos grands-mères. Et donc on va regarder un petit peu tout ça. On va regarder aussi les tendances, on va dire, de société. On va regarder aussi beaucoup tous les magazines culinaires. On va regarder les chefs, ce que font les nouveaux chefs. La déco aussi, ça nous inspire beaucoup. Et on va regarder notre offre à nous en tant que telle pour voir ce qu'on peut bouger, ce qu'on peut faire évoluer, ce qu'on doit supprimer, parce qu'il y a des choses qui sont obsolètes, des choses qui ont besoin d'évoluer, que ça soit en recette, en produit ou même en création packaging, il y a des choses qu'on a envie de moderniser. Donc, on va faire l'analyse de tout ça et ensuite, on va construire notre offre en donnant nos directives, en donnant nos orientations de gamme, de produits et de recettes, puisqu'on va écrire les briefs, c'est-à-dire qu'on va travailler sur nos gammes en disant voilà, je voudrais développer telle gamme de plats cuisinés ou telle formule de légumes, des nouveaux gratins dans des petites barquettes en bois, je veux développer des glaces véganes, voilà. Donc on va réfléchir à tout ça et on va écrire des briefs très spécifiques. Donc le point de départ, c'est vraiment une recherche, une envie et des concepts à proposer au fait à nos clients. Et on va jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire qu'on va vraiment écrire comme un chef, en fait. On va écrire le brief, la recette avec les ingrédients que l'on veut, des coupes des légumes qu'on veut, la sauce que l'on veut, les marquants que l'on veut et même la façon dont on les dispose dans le plat. Voilà, si on veut des glaces en couche ou si on veut un plat avec l'accompagnement sur le côté et la viande de l'autre. C'est vraiment nous qui allons donner toutes ces directives-là.
Pour illustrer ce principe d'innovation, j'ai demandé à Delphine Alazard-Courtier de nous donner quelques exemples.
Sur la gamme des légumes, on a vu que beaucoup de gens cuisinent, donc aiment beaucoup les produits bruts, mais on s'est rendu compte qu'ils avaient aussi envie d'avoir des légumes un petit peu plus cuisinés, des choses un petit peu plus dans les tendances. Et on a vu que pour l'heure du déjeuner aussi, ce qui était important, c'est de proposer des légumes aussi faciles et rapides à mettre en œuvre. La tendance était aussi sur le non plastique. Donc, on a développé des petites barquettes en bois et dans lesquelles on a mis des petits gratins de légumes ou des petites poêlées de légumes cuisinés, juste à réchauffer au micro-ondes pour des portions individuelles.
S'il y a bien un moment de l'année où Picard déploie le plus de moyens, c'est à l'approche des fêtes de Noël. Car les statistiques le montrent, c'est à cette période-là que l'enseigne recrute le plus de nouveaux clients. Picard table sur l'effet bûche de Noël, faire entrer dans le magasin des gens venus acheter un dessert pour le réveillon et leur en mettre plein les yeux de manière à leur donner envie de revenir durant l'année.
Le moment le plus fort pour nous, pour les équipes et le plus stressant finalement, c'est Noël. Puisque Noël, on arrive à développer entre 70 et 80 nouveautés sur la fin de l'année. Et c'est quelque chose qu'on prépare un an à l'avance. C'est vraiment quelque chose où on fait une feuille blanche. On recommence à zéro puisque on a des produits qui sont visuellement très forts, très impactants, avec des parfums aussi très recherchés. Donc c'est des choses que on fait une fois et qu'on n'a pas du tout envie de retrouver finalement l'année d'après. Et quand on reçoit la famille, nos amis avec des produits spécifiques finalement, on a envie de l'année d'après de trouver autre chose. C'est exactement comme la collection de haute couture. Vous avez les créateurs qui font les défilés automne-hiver et le défilé printemps-été, voilà. Et d'année en année, ils refont des choses différentes. Ils reprennent des tissus différents. Ben, nous, c'est pareil.
Sur la question de la bûche de Noël, Delphine Alazard-Courtier se souvient d'un produit qui a représenté un vrai défi.
C'est assez marrant, c'est que les clients aiment beaucoup les bûches pâtissières et les bûches glacées, mais malgré tout, quand même, c'est les bûches glacées que les clients préfèrent. Ils aiment bien se terminer par quelque chose de plus frais, etc. Mais nous, on se dit que quand même la tradition, c'est quand même la bûche pâtissière, la bûche de nos pâtissiers de quartier. Et on essaie à chaque fois de revisiter et de moderniser justement toutes ces bûches. Et on a vu ces tendances de pâtisserie, de pâtisserie traditionnelle revenir, donc les tartes tropéziennes, les fondants au chocolat, les tartes tatin. Et on a eu envie de développer une bûche tatin. Donc, c'était sur une base de biscuits un peu croquants avec le cœur, avec une mousse vanillée très, très légère. Et ce qui était très, très dur à faire, c'est qu'en fait, tout le contour de la bûche était en pomme tatin caramélisée et donc faisait le contour de la bûche. Et donc, c'était le plus difficile, en fait, à faire. C'est que on devait faire un moule de pommes pour créer cette bûche. Après que vous tranchiez la bûche, vous aviez à la fois ces pommes caramélisées, cette mousse vanille et ce croquant biscuit sur la base.
La journaliste Camille Harel parle d'un rapport à l'innovation très central dans l'approche de Picard.
Parmi les leviers pour se démarquer, Picard actionne énormément l'innovation. Il faut savoir qu'ils innovent environ sur 250 produits par an. Donc, ils sont pas fabricants, hein, ils font appel à des fournisseurs, mais toute l'élaboration des produits, etc., est fait conjointement. Donc, ils ont toute une charte qualité. Il y a 70% des produits qui sont fabriqués en France. Et on est surtout, en fait, sur une exclusivité de l'offre qui se différencie de la GMS parce qu'il y a quasiment pas de produits à marque nationale, sauf quelques références de glace. Sinon, tous les produits sont à marque Picard.
Aveline, alias Hunter Gourmet.
quand j'ai fait la série de crash test Picard asiatique, c'était en passant devant les boutiques Picard. Il y avait pas mal de com dessus, c'était par rapport au nouvel an lunaire. Et du coup, ma pote, elle m'a dit, faudrait trop que tu fasses des crash tests pour savoir si ça a vraiment le goût des produits asiates. Et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est une bonne idée de série de vidéos. Et c'est comme ça, on est parti acheter plein de produits Picard qui nous intéressaient et on a tout testé.
Mais avoir une offre qui se renouvelle régulièrement, en théorie, ne suffit pas à attirer les clients. Pour nous faire consommer, les entreprises prennent également soin de l'expérience en magasin. Et cela passe par plein d'astuces. Par exemple, avez-vous déjà remarqué comme souvent dans les magasins de vêtements, les escalators sont disposés à l'entrée de manière à vous inciter à monter à l'étage ? Pour redescendre, en revanche, ce sont bien souvent les escaliers que l'on vous réserve. Parce que oui, c'est avant l'acte d'achat que les marques ont tout intérêt à vous dorloter en vous économisant tout effort jusqu'à la caisse. Une fois que vous avez réglé, vous pouvez bien vous débrouiller pour regagner la sortie tout seul. Dans le cas de Picard, l'expérience en magasin a consisté à donner un sens à l'éventail des produits vendus. Ainsi, les magasins imposent un parcours de déambulation à sa clientèle. Cela commence par les mises en avant du mois, ces petites promos qui devraient logiquement vous donner envie de remplir votre panier à l'entrée du magasin. Puis arrivent les viandes, les poissons, les accompagnements, les pizzas, les plats préparés, les petits déjeuners et enfin les glaces et les desserts. Une suite qui se déroule selon un ordre précis pensé pour vous guider à travers le catalogue. Cela vous fait penser à une autre enseigne ? Peut-être avez-vous en tête IKEA, qui est une autre entreprise à imposer un circuit à ses clients, au milieu de son catalogue de mobilier et de décoration. Pour les magasins, le parcours client est un vrai challenge, de nature à nous faire consommer plus. Ce n'est pas un hasard si près des caisses des grandes et moyennes surfaces, vous avez toujours trouvé des chewing-gums. Ou si, dans les magasins de cosmétiques type Sephora, il y a toujours des petits baumes à lèvres pas chers sur les présentoirs au moment où vous payez. Revenons-en à Picard. L'enseigne a également fait face à un autre défi qui a été de rendre les magasins plus chaleureux. Car le fait même de vendre des surgelés implique nécessairement des espaces blancs, carrelés et pleins de réfrigérateurs. C'est sûr que c'est moins convivial que de vendre des fleurs. Camille Harel.
Une signalétique qui a été mise en place maintenant, notamment là dans le nouveau concept qui se déploie. Chaque zone est associée à une couleur. Par exemple, vous avez du bleu pour le produit de la mer, le rouge pour les pizzas, etc. Il y a plus de visuels. L'enseigne communique sur ses engagements RSE. Donc, c'est vrai que le magasin est désormais un vrai vecteur de communication. Mais après, Picard va au-delà de la simple expérience client en magasin, qui est certes essentielle, mais l'enseigne s'est énormément diversifiée sur l'omnicanalité. Maintenant, par exemple, il y a du click and collect dans tous les magasins, il y a un service de livraison à domicile dans toute la France, il y a un partenariat avec Deliveroo pour Paris avec une livraison en moins de 30 minutes, ils ont développé des snack bars connectés pour les hôpitaux, dans certaines entreprises et des universités. Tout est vraiment fait, voilà, pour que chaque consommateur puisse avoir accès à un produit Picard, finalement, là où il veut, quoi.
Pour atténuer ce côté frigo géant, Picard a mis en place plusieurs nouveaux concepts de magasins. Des couleurs plus chaudes, des panneaux qui singent une esthétique marché du dimanche, du faux bois.
Il y a quelques temps, il y avait un petit peu cet aspect qui pouvait être perçu peut-être comme clinique, mais là, ça fait plusieurs années qu'en effet, l'enseigne a beaucoup travaillé là-dessus pour mettre des couleurs, etc. Beaucoup revisité également son magasin avec des concepts de magasins qui sont assez fréquents. Le dernier date d'il y a 4 ans. Là, il y en a un qui vient d'être mis en place. Il y a quelques magasins test depuis le mois de mars. Donc, ça s'appelle « Bienvenue en cuisine ». Donc, c'est un tout nouveau concept qui vise vraiment à embellir l'expérience des consommateurs en magasin avec un rôle des vendeurs qui sont plus uniquement là pour faire de la vente, mais qui sont désormais des conseillers. Donc, c'est vraiment une expérience qui est basée sur le service, la proximité. L'offre évolue beaucoup chez Picard. Avant, c'était que du produit surgelé. Maintenant, il y a des produits d'épicerie, il y a du vrac. Ils ont mis en place un partenariat avec Le Petit Ballon, qui est un fournisseur de vin. Il propose également maintenant du non-alimentaire pour être vraiment l'allié, on va dire, du consommateur au quotidien.
Tout ceci me fait penser à une esthétisation de l'artisanat que j'ai pu observer la dernière fois que je suis entrée dans une grande surface. Au-dessus du rayon poissonnerie trônait la mention « retour de pêche » et au rayon boulangerie, on pouvait lire un écriteau affiché l'expression « à la sortie du fournil ». En toile de fond, Picard, comme l'ensemble de l'industrie agroalimentaire, évolue dans un nouveau référentiel de valeur. La clientèle est aujourd'hui de plus en plus sensible au bio et au local. Là où le grand choix proposé et la modernité des supermarchés étaient valorisés dans les années 70, les clients s'inquiètent aujourd'hui du trop grand nombre d'intermédiaires, du champ au rayon des magasins. Alors pour gagner leur confiance, les marques redoublent d'ingéniosité pour montrer patte blanche. imprimer des visages d'agriculteurs sur les produits, créer des faux logos en forme de planète Terre, apposer sur leur packaging des images de nature verdoyante, c'est ce qu'on appelle la naturalité. Dans sa thèse en sociologie « Manger et faire manger la nature », Olivier Lepillet a relevé quelques slogans censés inviter la nature dans les rayons pleins de produits industriels. Genre chez Bonduelle, la phrase « Les légumes nous apportent tous les bienfaits de la nature » ou encore chez les bonbons Ricola, la phrase « Élaborée à partir du fameux mélange de plantes Ricola des montagnes suisses, un bienfait de la nature ». Et chez Kellogg's, on retrouve « Country Store, généreux par nature, un muesli si généreux, seule la nature pouvait nous l'offrir ». Pour satisfaire la clientèle sur ce volet, Picard visibilise désormais son travail en étroite collaboration avec certains agriculteurs. Camille Harel.
Depuis 2020, Picard a noué un partenariat avec la Fédération nationale de l'agriculture biologique et ils ont mis en place des filières de légumes bio locales qui sont déjà opérationnelles dans le sud-est et dans le sud-ouest. Devrait y en avoir de nouvelles à horizon 2023. Et là, on est vraiment donc sur un concept de bio local où les produits sont cultivés, récoltés, transformés et distribués uniquement en local. Donc, ce ne sont des produits que vous ne pouvez trouver que dans le sud-est ou dans le sud-ouest. Donc, ça va être des gammes de légumes. Et après, en termes de bio, Picard compte environ 10% de son offre en bio, mais il souhaite pas s'élargir à outrance là-dessus. Eux, l'objectif, c'est d'avoir un produit bio par famille, pas de développer plus que ça.
Malgré cette tentative de verdir ses pratiques, l'enseigne Picard parvient-elle à offrir des produits sains sur toutes ses gammes de produits ? Comment la marque réussit-elle à proposer des prix concurrentiels sur ses barquettes de plats préparés express ? Nous répondrons à toutes ces questions dans le prochain volet de cette série sur Picard et sur les produits surgelés en général. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcasts. Ça nous aide beaucoup à bien référencer notre travail. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et Mathilde Jonin. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.